Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Un conseil de défense sanitaire est prévu aujourd'hui. La crainte d'un troisième confinement est dans beaucoup d'esprits. Nous nous pencherons sur la situation dans le Grand Est particulièrement difficile.
La Russie multiplie son bilan par plus de 3. 186 000 personnes sont mortes cette année du Covid-19. D'après les autorités russes, nous irons à Moscou.
La ministre des Armées déplore la mort de 3 jeunes militaires français hier au Mali. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif. Ce mode opératoire semble nouveau alors qu'un retrait progressif de l'opération Barkhane était envisagé, nous expliquera un spécialiste.
Une militante saoudienne pour les droits humains, en détention depuis 2 ans, a été condamnée hier à plus de 5 ans de prison. L'ONG Amnesty International pointe du doigt les conditions de sa détention et demande à l'Arabie Saoudite de la libérer rapidement.
Enfin, nous irons en Australie où bientôt il faudra une ordonnance pour acheter les liquides utilisés dans les cigarettes électroniques. Le gouvernement souhaite encadrer le vapotage. Et après ce journal, comme tous les jours cette semaine, Frédéric Saïs dresse l'état de santé d'un parti politique français. Ce matin, La République en marche. Les Français vont-ils devoir respecter un troisième confinement? Un conseil de défense consacré à l'épidémie de Covid-19 se tiendra aujourd'hui en visioconférence autour du président de la République Emmanuel Macron. Il s'agirait, selon certains proches du gouvernement, d'un point d'étape plus que d'une réunion décisive avant les vœux du chef de l'État jeudi soir. Ceci étant dit, la situation sanitaire inquiète. Les indicateurs ne sont pas satisfaisants et il ne faudra pas attendre trop longtemps avant d'agir, estime Jean Rottner. La question se pose d'avoir recours à un nouveau confinement, peut-être localisé, affirme le président LR de la région Grand Est. La situation est préoccupante dans sa région, la deuxième la plus touchée de France, après la Bourgogne-Franche-Comté. Elle affiche un taux d'incidence de 240 cas pour 100 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale de 150 cas, Julien Penaud.
Parmi elles, de plus en plus de personnes âgées. Chez les plus de 65 ans, le taux d'incidence atteint les 260 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre qui inquiète les autorités sanitaires, car ces seniors ont plus de risques de développer des formes sévères de la maladie et donc d'être hospitalisés. Les services des urgences de Troyes, Verdun et Nancy sont d'ailleurs déjà sous tension. Celui de Mulhouse a vu ses patients Covid se multiplier par 2 en 2 semaines. La faute à des hospitalisations qui n'ont jamais vraiment diminué. Elles se sont d'abord stabilisées à un niveau élevé. Et maintenant, la tendance est à la hausse. Près de 3000 personnes sont actuellement hospitalisées dans le Grand Est. Du côté des services de réanimation, 600 lits sont ouverts contre 470 habituellement.
Julien Penaud de France Bleu Alsace. Autre manière de mesurer la propagation de l'épidémie, le centre hospitalier universitaire de Nancy a développé un outil statistique. Il montre le risque d'une troisième vague dans les hôpitaux à partir du 7 janvier. Le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus, doit être inférieur à 1 pour enrayer la propagation. Or, il est repassé au-dessus de ce seuil critique. Christian Rabot préside la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy.
Alors le printemps, on est monté, je le rappelle, jusqu'à 7000 lits de réanimation occupés, ce qui était tout à fait considérable, mais dans un contexte très particulier, puisque face à la violence, le R0 était supérieur à 2 à l'époque, peut-être à 2,2, 2,3, donc un R0 très violent, qui avait conduit à transformer l'hôpital en lieu d'accueil pratiquement uniquement des patients Covid, en dehors des urgences vitales qui ne pouvaient pas attendre. Cette fois-ci, au milieu de l'hiver, on ne peut plus transformer un hôpital en hôpital orienté 100% Covid. Les patients non Covid ont besoin de l'hôpital, pas seulement du fait des viroses hivernales, mais parce qu'il y a plus de problèmes cardiaques en cette saison, il y a plus de décompensations diverses. Donc c'est des patients qui ont aussi besoin de lit de réanimation. Et aujourd'hui, par exemple, au CHRU de Nancy, 40 patients Covid présents en réanimation, 45 patients non-Covid présent en réanimation, alors que notre capacité réanimatoire habituelle est de 66 lits. Donc on est au-dessus, avec des difficultés en termes de ressources humaines, là parce que c'est les vacances. Les personnels vont effectivement revenir début janvier, mais si d'ici là la pression a augmenté et le besoin augmente, nous n'avons plus les capacités pour faire tourner ces lits de réanimation supplémentaires, de libérer les personnels qui habituellement, par exemple, s'occupent des blocs opératoires. Donc on prend du retard sur les programmes opératoires, on prend du retard sur certaines prises en charge, On en avait déjà pris au printemps et on ne peut plus accumuler ces retards sans un effet potentiellement néfaste pour ces patients non Covid.
Le professeur Christian Rabaud, invité de Stanislas Vazak dans le journal de 22h hier soir. Interview à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. Le Covid-19 a fait plus de 63 000 morts en France depuis le début de l'épidémie, selon Santé publique France. En Russie, les autorités ont largement revu leur bilan à la hausse. Elles l'ont multiplié par plus de 3. Selon l'agence officielle russe de statistiques, 186 000 personnes sont mortes du Covid depuis janvier. Un nombre obtenu grâce à de nouveaux critères. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
La Russie occupe désormais le troisième rang des pays les plus touchés par l'épidémie, derrière les États-Unis et le Brésil. Rostat, l'agence officielle de statistiques, a procédé à l'analyse du nombre de personnes décédées entre janvier et novembre, un chiffre en hausse de 13,9% par rapport à la même période en 2019. Et selon la vice-première ministre chargée de la santé, 81% de cette surmortalité est liée à l'épidémie de Covid-19, soit 186 000 personnes. Jusque-là, les autorités russes ne recensaient officiellement qu'un peu plus de 55 000 morts du Covid, de quoi faire dire à Vladimir Poutine que la Russie gérait mieux la pandémie que certains pays européens. Pour expliquer cette différence, il faut savoir que le gouvernement n'avait jusqu'à présent décompté que les personnes décédées du seul Covid après autopsie. En y ajoutant ceux dont le Covid est suspecté d'être la cause du décès et ceux chez qui le coronavirus a accentué d'autres pathologies ayant entraîné la mort, on obtient 186 000 décès, soit trois fois plus. Des chiffres qui donnent un poids accru au syndicat de médecins qui dénonce des conditions de travail déplorables dans les régions, absence de matériel de protection pour les soignants, manque de personnel, pénurie de médicaments, hôpitaux vétustes, alors que l'épidémie n'est pas enrayée. Pour y parvenir, les autorités tablent sur la vaccination de masse de la population, mais un sondage récent révélait que seuls 38% des Russes avaient l'intention de se faire vacciner.
Beaucoup de villes russes ont souffert de la deuxième vague. Nous étions au début du mois à Tambov, à 500 km au sud de Moscou. Tambov, une ville russe qui tente de survivre en temps de Covid, c'était le reportage de la rédaction à retrouver sur franceculture.fr. À travers le monde, les campagnes de vaccination commencent lentement en Espagne, comme en France et dans de nombreux pays de l'Union européenne. Elle a démarré dimanche. Celles et ceux à qui les autorités proposent de se faire vacciner et qu'ils refusent seront inscrits sur un registre. Registre qui ne sera pas public, mais tout de même partagé avec d'autres membres de l'UE. D'après un dernier sondage, la proportion des Espagnols ne souhaitant pas se faire vacciner a chuté, passant de 47% en novembre à 28% en décembre.
France Culture 8h07, la suite du journal Margot Delpierre. 3 soldats français sont morts au Mali hier.
3 hommes âgés de 21 à 28 ans, ils circulaient dans le centre du pays à bord d'un véhicule blindé quand ils ont été tués sur le coup par un engin explosif. Ils menaient une mission de ravitaillement. Une attaque qu'il faut remettre dans son contexte. André Bourgeot est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Mali.
Je crois que c'est un mode opératoire nouveau habituellement. Ils utilisent des mines, mais c'est pas la même chose qu'un engin explosif. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le général Lecointe, chef des états-majors, était il y a une ou deux semaines à Bamako. Ensuite, il est allé à Gao et il a envisagé un retrait progressif de l'opération militaire Barkhane. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'intervient cet attentat auprès des soldats français. Et ensuite, la troisième chose est le fait que les forces armées maliennes issue du coup d'état militaire du 18 août 2020 n'a pas particulièrement amélioré les conditions sécuritaires sur l'ensemble du Mali et plus particulièrement dans cette zone, dans le Mali central.
André Bourgeot, depuis 2013, 51 soldats français sont morts en mission au Sahel. 50 journalistes ont été tués cette année, près de 400 autres emprisonnés. C'est le résultat du bilan annuel de Reporters sans frontières publié ce matin. L'organisation de défense de la presse constate une réduction du nombre de journalistes tués sur les terrains de guerre, mais de plus en plus d'assassinats dans des pays dits en paix. Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession, suivi par l'Inde, le Pakistan et les Philippines. Elle est une militante des droits humains. La saoudienne Loujain Al-Atloul a été condamnée hier dans son pays à 5 ans et 8 mois de prison en vertu de la loi antiterroriste. Elle est en détention provisoire depuis plus de 2 ans et pourrait bientôt sortir grâce à un sursis, indique sa famille. La France réclame sa libération immédiate, tout comme Francis Perrin. Il est le vice-président de l'ONG Amnesty International et déplore ses conditions de détention.
Ce que nous savons, c'est que au début de sa détention, rappelons qu'elle a été arrêtée en mai 2018, il y a eu une période pendant laquelle elle a été détenue sans avoir de possibilité de contacter sa famille et son avocat, ce qui est évidemment contraire au respect des droits les plus élémentaires prévus par le droit international. Nous savons également qu'il y a eu des périodes d'isolement, qu'il y a eu des mauvais traitements et des tortures physiques et psychologiques. Donc nous appelons les autorités saoudiennes à la libérer de façon immédiate et inconditionnelle, et en attendant à faire en sorte que ces conditions de détention soient conformes au droit international, qu'elles ne soient pas maltraitées de quelque façon que ce soit, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de sa détention.
Francis Perrin, propos recueillis par Omar Waman. Donald Trump aurait essuyé un revers au Congrès. Hier, la majorité des parlementaires à la Chambre des représentants ont voté en faveur du budget de la défense qui s'élève à 140 milliards de dollars. Le président sortant des États-Unis y avait opposé son veto. Il faut attendre le vote final au Sénat pour savoir si son veto sera effectivement contourné. Donald Trump qui laissera fin janvier la Maison-Blanche au président élu Joe Biden. Ce dernier regrette ce qu'il appelle l'irresponsabilité de l'administration Trump. Le démocrate affirme qu'elle ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'équipe chargée de la transition en ce qui concerne la sécurité nationale. Il y a un an, Carlos Ghosn s'enfuyait au Liban pour échapper à la justice japonaise. Il se serait caché dans un caisson de matériel audio. L'ex-patron de Renault et Nissan est soupçonné de multiples malversations financières. Il était en liberté conditionnelle quand il s'est enfui. Depuis, malgré un mandat d'arrêt international, il vit au Liban, le pays où il a grandi, et dénonce un complot dont il se dit victime. Cette affaire continue de faire couler beaucoup d'encre au Japon, Karine Nishimura.
Depuis un an et la fuite de Carlos Ghosn, les procureurs de Tokyo sont démunis, eux qui se disaient certains de faire condamner le mania de l'automobile. Le sauveur de Nissan, il y a 20 ans, avait été la star des patrons au Japon. Il est désormais perçu comme un escroc. Pour de nombreux Japonais, sa fuite signe presque sa culpabilité, même s'il reste présumé innocent. Deux procès ont lieu actuellement en lien avec cette affaire. Le premier vise son ex-bras droit, Greg Kelly, arrêté en même temps que lui fin 2018 et accusé de conspiration, de dissimulation aux actionnaires des rétributions de Ghosn chez Nissan. Absent, Ghosn ne sera pas jugé et pourtant c'est son nom qui revient le plus souvent. Le deuxième procès est intenté au civil par Nissan contre son ex-PDG à qui l'entreprise demande réparation pour de multiples fraudes. Enfin, d'anciens avocats japonais de Ghosn ont porté plainte contre le gouvernement jugeant illégale la perquisition de leurs locaux par des procureurs après la fuite de leurs clients. Ghosn, de son côté, ne cesse de dénoncer la justice inique du Japon, mais tous ceux qui assistent au procès de son ex-bras droit auraient quand même aimé l'entendre expliquer la nature des nombreux documents présentés à la cour relatifs à ses salaires déclarés et aux quelques 176 millions de dollars qu'il était censé empocher une fois retraité. Ce procès sans Ghosn va durer encore plusieurs mois.
La correspondance à Tokyo de Karine Nishimura. Comment encadrer le vapotage? La question s'était posée en France, elle se pose maintenant en Australie. Là-bas, le gouvernement a annoncé qu'à partir d'octobre 2021, il faudra une prescription médicale pour acheter de la nicotine liquide. Une décision critiquée par certains membres au sein de la communauté médicale qui estiment que oui, vapoter est nocif, mais beaucoup moins que fumer des cigarettes. À Sydney, Grégory Pless.
En Australie actuellement, comptez 20 à 25 euros pour acheter un paquet de cigarettes. Alors forcément à ce prix-là, on y croise de plus en plus de vapoteurs. Mais ça ne va peut-être pas durer, puisqu'il faudra d'ici quelques mois une ordonnance pour acheter de la nicotine liquide. Le but, c'est d'empêcher les jeunes d'y avoir accès, la cigarette électronique étant, d'après les autorités, une passerelle vers la cigarette classique. Un argument balayé par le docteur Joe Kosterich, il dirige une association qui aide les fumeurs à arrêter. Il pense en revanche que cette mesure pourrait pousser d'anciens fumeurs à se remettre à la cigarette.
Le gouvernement britannique a démontré que vapoter est 95% moins nocif que de fumer. Donc mettre des barrières devant des gens qui veulent arrêter de fumer grâce au vapotage, ça n'a aucun sens. Au contraire, ça pourrait pousser certaines personnes à se remettre à fumer.
Une prédiction que confirme Lizzie. Elle fumait jusqu'à récemment plus de 2 paquets par jour et c'est grâce à la cigarette électronique qu'elle a réussi à arrêter. Mais sans nicotine liquide, elle est sûre de rechuter.
C'est ridicule. Dès que je ne pourrai plus y avoir accès, je vais me remettre à fumer.
Malgré la hausse constante du prix du tabac qui a triplé en 10 ans, le nombre de fumeurs ne diminue plus en Australie depuis 2013. En revanche, il est très bas, puisque 13 à 14% de la population fume. C'est deux fois moins qu'en France.
En France, justement, trois départements restent en vigilance orange pour crue. Les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne. Cinq autres départements de l'Aveyron au Puy-de-Dôme sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas. Météo France prévoit cet après-midi 4 degrés à Lille, 6 à Strasbourg, jusqu'à 11 degrés à Nice, Hervé.
Merci Margot Delpierre. Le prochain journal, ce sera à 9h.